Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Léa Bouvet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble. Au programme cette semaine, on vous emmène à 2000 mètres d'altitude à la station de ski de l'Alpe d'Huez, prendre un petit bain de soleil au-dessus de la couche de nuages et surtout vous parler de la Coupe du Monde de ski de boss qui commence aujourd'hui. L'occasion aussi de prendre un peu le pouls d'une station sur le point de recevoir ses premiers vacanciers après une année très particulière à cause de la crise sanitaire. Rappelez-vous, des remontées mécaniques à l'arrêt, des restaurants portes closes. Cet hiver, c'est une toute autre ambiance qui s'annonce. On est ensemble en direct jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8, Microcité. C'est parti. Mais d'abord, le journal avec Clémentine Proutot. Bonjour Clémentine.
Bonjour. Embouteillage à la gauche pour les présidentielles. L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, dit réfléchir à lancer sa candidature. Elle prendra sa décision d'ici fin janvier. La crise sanitaire va-t-elle gâcher les fêtes de Noël? Alors que les vacances commencent, le gouvernement organise un conseil de défense. Nous verrons quelles mesures pourront être prises. Des robes noires dans la rue, des tribunaux vides, la justice à l'arrêt ce mercredi. Témoignage sur un profond malaise dans ce journal. Ce week-end, c'est le début des vacances. Il fera beau en Isère. Bienvenue. Nouveau rebondissement dans la course à la présidentielle. Christiane Taubira a annoncé ce matin envisager être candidate. Elle espère fédérer l'ensemble de la gauche. Une initiative pas totalement à la hauteur pour le candidat écologiste Yannick Jadot, mais qui réjouit les comités de soutien de l'ancienne garde des Sceaux. Ils attendaient une déclaration depuis un bon moment.
Je ne crois pas qu'il soit trop tard, parce que je pense que Christiane Taubira, c'est une grande dame, c'est une stature. Elle a fait déjà beaucoup de choses. Le programme qui va aller derrière, les lignes en sont pour nous complètement tracées. Ça fait un an et demi qu'on œuvre pour ça dans le collectif Taubira pour 2022. Je ne pense pas que c'est vague, je pense que c'est simplement qu'elle ne veut pas fermer les portes. Les conditions, c'est qu'elle soit portée par l'Union, soit d'autres rejoignent la primaire populaire, ou par le biais de discussions à gauche et qui évoluent et qui bougent. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui nous réjouit, c'est qu'elle est prête à porter la candidature de l'Union.
Pour connaître sa décision, rendez-vous à la mi-janvier. Un peu moins de 60 000 personnes ont déjà signé la pétition Taubira 2022, l'appelant à devenir candidate. Et une autre candidate, Anne Hidalgo, a d'ailleurs proposé aujourd'hui un débat télévisé à ses adversaires de la gauche. La socialiste aimerait l'organiser avant le 15 janvier. Un conseil de défense sanitaire est organisé en ce moment même par le gouvernement. L'objectif, limiter le nombre de contaminations au Covid-19 avant les fêtes de Noël. Après le durcissement des conditions d'accès pour les voyageurs venant du Royaume-Uni, d'autres mesures sont à prévoir, Anouk Caron.
Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le pic de la cinquième vague devrait être atteint dans les prochains jours. Aujourd'hui, on comptabilisait plus de 60 000 cas de Covid, soit plus de 4 000 par rapport à la semaine passée. Pour tenter de contrer cette augmentation des cas et à l'approche des vacances de Noël, un conseil sanitaire se tient donc en ce moment. Parmi les pistes de discussion qui pourraient être annoncées, un accès gratuit aux autotests pour les personnes vaccinées, même sans symptômes et même sans être cas contact. Cela permettrait de se tester gratuitement avant de rejoindre sa famille pour les fêtes. La vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans pourrait également être élargie très rapidement. Elle ne concernait jusqu'ici que les enfants à risque. Et puis dernière piste, un renforcement des contrôles aux frontières. Une mesure limitant l'arrivée des Britanniques en France a déjà été prise hier en raison de la présence importante du variant Omicron au Royaume-Uni. En attendant de possibles annonces à l'issue de ce Conseil de défense sanitaire, l'épidémie perturbe à nouveau le calendrier sportif. Tous les matchs de la Coupe d'Europe de rugby opposant des clubs français à des clubs britanniques ce week-end ont été reportés ou annulés. Et d'autres pays d'Europe renforcent encore leurs mesures. Le Danemark, par exemple, va fermer ses cinémas, ses théâtres et ses salles de concert.
Comme on a pu vous le dire, c'est un feu vert pour la vaccination de tous les enfants en France. Déjà ouverte aux jeunes les plus fragiles, le Comité national d'éthique vient de donner un avis favorable à son élargissement. L'autorité insiste pour laisser le choix aux parents sans imposer un pass sanitaire aux enfants.
Il y a 4 mois des présidentielles, les magistrats exprimaient leur mal-être un peu partout en France ce mercredi.
C'est une première d'après les syndicats de la profession. Accompagnés des avocats et des greffiers, ils tentent d'alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail. Ils réclament plus de moyens pour la justice. Agathe Legrand les a rencontrés à Grenoble.
C'était une image rare. Avocats, juges, greffiers, tous les métiers de la justice manifestaient tous ensemble place de Verdun. Laurent Dégouy, magistrat à la cour d'appel de Grenoble, était parmi eux.
C'est un mouvement historique. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue, dans la cité, pour nous adresser aux justiciables, aux citoyens.
Un rassemblement qui touche donc tous les corps de métier du monde de la justice, tant le malaise est profond. L'avocate Bienvenue Gomis est venue, elle aussi, dénoncer ses conditions de travail.
Il y a des difficultés sur des délais de jugement qui sont extrêmement longs. Sur du juge unique, on est à plus d'un an au niveau des audiences de jugement et de renvoi.
Audience retardée, manque de personnel, un dysfonctionnement qui a aussi un impact sur les citoyens, selon Laurent Dégouy.
Je dois traiter aujourd'hui une affaire d'adoption qui plonge les parents adoptants dans une situation d'attente extrêmement forte. Et je devais rendre cette décision lundi. Je n'ai pas été en capacité de le faire. Et je ne pourrai pas le faire avant plusieurs semaines.
Après avoir défilé et jeté leur code pénal à terre, avocats et juges sont rapidement retournés au tribunal pour traiter la quarantaine de dossiers quotidiens qui les attendent sur leur bureau.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Le parquet de Nanterre ouvre aujourd'hui une enquête pour viol contre l'ancien présentateur de TF1. Une femme l'accuse d'avoir abusé d'elle en 1985. Les faits seraient prescrits. Au total, 11 femmes ont porté plainte contre le présentateur vedette. Pour ceux qui comptent prendre le train ce soir, seulement la moitié circuleront sur l'axe sud-est. Les syndicats CGT Cheminots et Sudrail ont levé trop tardivement leur appel à la grève hier pour organiser correctement le trafic. La SNCF s'engage à rembourser la totalité des billets voyageurs qui se retrouveraient coincés en gare. Les enfants non accompagnés pris en charge par le service junior sont prioritaires pour obtenir des places de TGV. Et les Bleus en demi-finale des mondiaux de handball. Les championnes olympiques en titre feront face aux Danoises. Rendez-vous donné à 17h30 sur les chaînes Bein Sport et TMC.
C'était le journal de Clémentine Proutot qu'on retrouvera en fin d'émission pour le rappel des titres. On parlait sport à l'instant et l'actualité sportive cette semaine, c'est aussi la Coupe du Monde de ski de bosse qui se déroulait aujourd'hui et demain à l'Alpe d'Huez en Isère avec la championne olympique Perrine Laffont, ravie de pouvoir skier devant son public.
C'est vrai que je suis heureuse, très heureuse même d'être ici. On l'attendait depuis un moment cette Coupe du Monde en France et pour nous d'avoir le public français qui vient nous encourager, d'avoir des supporters, de faire voir notre sport aussi aux Français parce que c'est encore différent de le voir à la télé que de le voir en vrai. On est juste trop heureux de pouvoir courir à la maison.
Et si le public était au rendez-vous ce midi, ça ne s'est malheureusement pas très bien passé pour la championne française.
Perrine Laffont au départ, championne olympique en titre. On veut la victoire, c'est parti.
Allez, va prouver à tout le monde que t'es la bosse. Bonne reprise quand même de ski, un petit peu timide sur la relance en tout cas.
Attention la chute! La chute pour Perrine Laffont! Terrible finale pour la Française qui est bien sonnée au milieu des bosses. Terrible pour Perrine Laffont!
Un extrait du direct de la chaîne L'Équipe et quelques douleurs aux côtes pour la championne. Ça ne nous empêchera pas de vous faire découvrir cette discipline si particulière et de nous intéresser à la reprise du ski dans les stations. Ce sera dans un instant dans le dossier de la semaine, mais d'abord, petite pause musicale.
Well, it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble in a year or a year.
It's been a long time, long time.
Il est 16h42 et c'était Nantes de Beyrouth.
Le dossier de la semaine.
Avec les neiges tombées ces dernières semaines, vous avez peut-être déjà rechaussé les skis. Pour de nombreux vacanciers, ça commence ce week-end. Mais pour certains skieurs, l'enjeu n'est pas seulement de profiter des pistes, mais bien de décrocher une médaille, Agathe Legrand.
Et oui, cette semaine, nous nous sommes rendus à l'Alpe d'Huez. La station accueille aujourd'hui et demain une étape de la Coupe du Monde de ski de bosse. Événement symbolique, le premier depuis longtemps dans la station où les vacances de Noël marquent le grand retour des skieurs après une année où la montagne a tourné au ralenti. Entre Covid, tourisme et reprise économique, on fera un tour d'horizon des enjeux que rencontre en ce moment une station de ski, sans oublier les questions environnementales et climatiques. Mais avant ça, je vous propose une petite halte au pied des pistes pour la Coupe du Monde de ski de bosse. Cela fait plusieurs jours que l'Alpe d'Huez s'active pour préparer la descente, une piste bien particulière qui demande une certaine préparation à Anouk Caron.
Fabriquer une piste de bosse, c'est d'abord beaucoup de neige.
On a fabriqué 20 000 mètres cubes de neige.
Germain Rabat était le chef du chantier. Il a participé à fabriquer ce qu'il appelle
un vrai champ de mine.
Un champ de mine où rien n'est fait au hasard. 160 bosses au total sur une distance de 240 mètres de long. C'est toute une mécanique de précision.
On met une distance entre chaque sommet de bosse. Et là, après, avec une machine treuil, on monte des petits bourrelets de neige qui sont arrondis manuellement. Il y a un gros boulot qui est fait à la main. Tout ce qui est finition de bosse, les gros tremplins et tout, c'est toute une finition à la main.
Avant de construire des pistes, Germain Rabat était terrassier pendant 20 ans. Aujourd'hui, cet ouvrage a une place toute particulière pour lui.
D'avoir Perrine Lafont, Ben Cavé, bon, je ne connais pas tout le monde, mais qui vont utiliser cette piste sur laquelle j'ai mis tout ce que je pouvais pour qu'elle soit au top, c'est vraiment gratifiant.
Perrine Lafont est championne olympique, Benjamin Cavé est médaillé mondial. Ce midi, les deux Français se sont élancés sur la piste, avant sûrement de se frotter à celle des Jeux Olympiques de 2022.
Maintenant qu'on a compris comment était construite une piste de ski de bosse, Gwendoline Langlois nous explique comment pratiquer ce sport devenu discipline olympique en 1972.
Le ski de bosse, c'est essayer de trouver un petit cheminement entre les bosses et réussir à se freiner sur chaque bosse et après à enchaîner un saut. Entre chaque bosse, il faut à la fois de la vitesse mais du contrôle. Pour contrôler, il faut une phase d'appui avec le ski un petit peu en travers et c'est ça qui est pas évident. C'est-à-dire que si on va un petit peu trop vite, on loupe son saut. Donc les meilleurs, ils arrivent à la fois à être rapide, efficace et à se freiner comme il faut pour pouvoir faire un joli saut.
Donc pour bien descendre une piste de ski de bosse, il faut toute une technique mais aussi une excellente condition physique, explique Florian, moniteur et responsable d'une piste de slalom.
Tout simple, c'est essayer de trouver un petit cheminement entre les bosses.
On prépare tout au long de l'année pour tenir le coup sur une semaine, apprendre à encaisser pour le dos, pour les genoux, ce nombre de bosses, ça va. De ce que j'ai compris, l'après-midi, les kinés sont bien au travail. Mais voilà, eux, ils ont le physique pour. Le ski de bosse, c'est vraiment les pieds collés, les pieds serrés, tout à l'amortissement. Donc vraiment les genoux qui travaillent, le dos qui absorbe les mouvements. Et de temps en temps, voilà, la réception, ça peut leur faire mal. Je pense que c'est pas mal d'attaquer tôt. Parce que là, c'est quand même du ski moitié alpin, le ski acrobatique, où ils font beaucoup d'entraînement, trampoline, de gymnaste, on va dire. Eux, ils ont du matos spécial, donc bon, leurs chaussures, a priori, c'est les mêmes. Par contre, les skis sont très étroits, pas de ski parabolique, parce que c'est uniquement du dérapage.
En haut des pistes, Thibaut Mouille, membre de l'équipe de France, s'apprête à s'élancer. En attendant son tour, il retrace mentalement sa descente une dernière fois.
C'est la partie qui nous fait arriver sur le premier saut, qui est super important parce que c'est là où après il y a le plus de boss et du coup c'est là où il faut qu'on saute le mieux, on va dire. La deuxième portion, c'est là où il y a beaucoup de boss, ici il y en a 33 je crois. Puis bah, il y a un moment où il y a un changement de rythme, où c'est plus serré. Et après, à la toute fin, il y a quelques boss, c'est juste pour montrer au juge si on est dans le bon axe de la piste et puis bah, pour finir le run en beauté quoi.
Un autre concurrent lui passe devant, l'occasion de lui demander sur quoi les juges vont évaluer sa performance.
Notre beauté dans les bosses, on va dire. La façon qu'on a de les skier, tout ça. La beauté de nos sauts, et puis la vitesse.
Ça y est, il s'élance. Toujours en haut de la piste, Alex, lui, est à fond. Il connaît sur le bout des doigts le nom de toutes les figures qu'exécutent les athlètes lorsqu'ils décollent dans les airs.
On a les corks, donc des 360 avec une vrille, des backflips qui sont grabés avec des rotations. Voilà, on appelle ça un peu les têtes en bas. Là, j'ai vu, il y en a qui faisaient même la rotation avant. Pas évident sur une bosse qui jette un petit peu vers l'arrière d'essayer d'enrouler, d'aller vers l'avant. Ça, par exemple, c'est très technique, je n'ai pas vu beaucoup le faire. Le grab, c'est en fait un terme anglais qui signifie attraper. Donc, on attrape son ski en avant, en arrière. Ceux qui font un peu du freestyle dans différentes disciplines, ça, ils connaissent bien. Le ski boss a évolué. Les grosses bosses sont vraiment beaucoup plus hautes, avec plus d'amplitude. Donc les figures sont beaucoup plus aériennes qu'auparavant.
Et c'est quoi la plus grosse figure? Celle qui rapporte le plus de points?
Je sais pas, elle a peut-être pas encore été tentée.
Donc entre les sauts, les bosses et le stress, le ski boss, c'est loin d'être facile. Même pour Perrine Lafont, médaillée d'or aux Jeux de 2018 et 3 fois championne du monde de la discipline.
C'est une piste très technique. Très sincèrement, elle est même très très dure. C'est une des plus dures du circuit, je crois, qu'on vient d'avoir. Là, avec les grosses chaleurs, ça fait des très grosses bosses. C'est pas facile. Voilà.
Difficulté fatale à la française qui est donc tombée ce midi lors des épreuves individuelles.
Et oui, la participation de Perrine Lafont à la finale de ski de bosses parallèle est donc incertaine. L'épreuve est prévue demain. En ce qui concerne la course individuelle, elle a été remportée ce midi par Ikuma Orochima, athlète japonais, chez les hommes, et l'Australienne Jakara Anthony, chez les femmes. Un événement qui symbolise la reprise de la saison de ski dans la station. Les remontées mécaniques ont repris du service, le public est de retour sur les pistes depuis fin novembre. L'Alpe d'Huez a quasiment retrouvé sa fréquentation normale, selon François Badgili, directeur de l'Office du Tourisme.
L'an passé, nous étions sur une période, si vous vous rappelez bien, où les remontées mécaniques n'avaient pas le droit d'être ouvertes, où les restaurants étaient fermés, où il y avait un couvre-feu. Et malgré tout, nous avons été extrêmement impressionnés par le nombre de clients qui sont quand même venus à la montagne pour faire d'autres activités que le ski alpin. Donc, il y a eu beaucoup de monde, mais c'était très coûteux pour la station. Parce que donc, du coup, on avait des frais. Pour vous donner un chiffre, l'an passé, jusqu'à fin janvier, nous dépensions 300 000 euros par jour pour entretenir le domaine skiable. Par contre, il n'y a pas de recette, parce qu'on ne fait pas payer les gens pour aller marcher. Une saison normale, c'est 1 300 000 nuitées. Fin novembre, on était uniquement à moins 3% par rapport à 2019. Mais c'est vrai que l'information par rapport à la Grande-Bretagne nous met un petit coup de massue. Il faut savoir que sur une station comme l'Alpe d'Huez, la moitié de notre clientèle est étrangère et la moitié de nos étrangers sont britanniques. Donc ça représente un quart de notre clientèle. Donc si demain, on nous apprend que jusqu'à la fin de l'hiver, on doit se passer d'un quart de notre clientèle, effectivement, ça va faire un trou.
Le gouvernement français a en effet annoncé hier des restrictions plus importantes pour les voyageurs britanniques en réponse au variant Omicron. Ces derniers ne pourront désormais plus se rendre en France qu'avec un motif impérieux. Les touristes français sont eux attendus dès ce week-end et pour faire tourner la station sur les pistes ou au village, il faut des saisonniers. Des saisonniers devenus une denrée rare cette année avec la crise sanitaire. Gwendoline Langlois.
Oui Agathe, car si pour certains montagne dit loisir, pour les saisonniers, montagne égale travail. Ils sont 3000 dans la station à faire tourner les remontées mécaniques, mais aussi fonctionner bars, hôtels et restaurants. Un secteur qui d'ailleurs manque de bras depuis la crise sanitaire avec 200 000 postes actuellement inoccupés. Alors, est-ce que c'est aussi le cas à l'Alpe d'Huez? François Badgil, directeur de l'Office du Tourisme.
Sur les sociétés de remontée mécanique, on n'a eu aucun problème pour retrouver nos saisonniers, qui sont des saisonniers qui viennent depuis des années et des années, et donc 95% de nos saisonniers sont revenus. La difficulté cette année, beaucoup plus que d'habitude, a été dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, soit des serveurs, soit des commis en cuisine. Aujourd'hui, on y est presque, hein, on est entre 5 et 10% qui manquent dans ces secteurs-là, donc il n'y a rien de catastrophique.
Mais il suffit qu'un seul être vous manque pour que tout parte à volo. En tout cas, c'est le cas de Joe, gérant d'un bar en bas des pistes, qui doit à tout prix recruter de nouvelles personnes pour pouvoir tenir la saison.
Normalement, un mois avant l'ouverture, on a notre staff complet. Là, on n'a même pas le staff complet alors que ça fait une semaine qu'on a commencé. Au bout d'un moment, on trouve, bien sûr, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas aussi facilement qu'avant.
Alexis Garceau est saisonnier et cette année, il a vu nombre de ses collègues changer de branche à cause de la crise sanitaire.
En même temps, c'était pas facile, on n'a pas été trop aidés non plus, la plupart, à se retrouver en galère, certains des fois avec des logements à payer. Du coup, c'est des nouveaux, des plus jeunes qui ont repris.
En tout cas, Roxane, elle, revient depuis 4 ans à l'Alpe d'Huez et ne changerait de métier pour rien au monde.
On fait des rencontres, on n'est jamais avec les mêmes personnes. Le paysage, on sort quand même vue sur montagne ou vue sur mer, on n'est pas à plaindre et puis on a quand même de bonnes vacances et il y a toujours des bons délires. Les clients, c'est bien, ils reviennent et nous, on revient. C'est un vrai plaisir.
Donc malgré l'amour de certains saisonniers comme Roxane pour leur station, l'Alpe d'Huez est loin d'être la seule à manquer de bras. Dans un article du Figaro en date du 27 octobre, Laurent Reynaud, délégué général d'un syndicat de stations, estime que cette année, seulement 50% des 18 000 saisonniers habituels sont revenus en montagne, alors qu'avant le Covid, ils étaient plus de 80% à rempiler chaque hiver.
Et oui, moins de saisonniers et aussi changement d'habitude dans les activités. La montagne a donc un visage légèrement différent depuis la crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques l'année dernière. Alors comment les habitants vivent-ils ce retour à un hiver plus classique ? Clémentine Proutot est allée leur poser la question.
Attablés en terrasse, alignés devant les télésièges, les touristes sont enfin de retour à l'Alpe d'Huez, une présence dont certains habitants s'étaient bien passés l'année dernière.
Il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était complètement un autre univers. Mais que j'ai trouvé très intéressant parce que justement, on a pu découvrir la montagne différemment. Là, si on voulait glisser, ça se méritait, il fallait monter à pied. Le silence aussi à la montagne, c'était impressionnant.
On n'avait pas beaucoup de bruit en voiture, on n'avait pas de boum-boum avec la musique des boîtes de nuit. Se retrouver avec les gens du village, c'était sympa, quoi. Les papis mamies étaient contents, hein. Ils ont retrouvé leur montagne, elles sont à eux.
Fini donc la tranquillité pour certains, mais dans l'ensemble, les habitants sont heureux de revoir les vacanciers. C'est le cas d'Aurore, elle réside à la station depuis 3 ans.
Tout le monde est très très motivé et très joyeux de pouvoir retrouver l'ambiance justement au niveau du commerce, dans les rues. Donc pour l'instant, touchons du bois et effectivement, on devrait avoir du monde et on devrait passer un très bel hiver. En tout cas, on l'espère tous.
La reprise du ski, c'est surtout le retour des clients pour Olivier Vera, le propriétaire du magasin Hors-Piste.
L'année dernière, la fréquentation, ça représentait 5% de ce qu'on faisait habituellement. Là, la semaine du jour de l'an va être à 100%, voire presque plus. Donc oui, il n'y a pas photo. L'année dernière, c'était 20 paires de skis de randonnée, 20 paires de raquettes et 20 paires de skis de fond. Maintenant, on vit un peu au jour le jour. Hein.
Car le Covid est une épée de Damoclès pour tous ceux qui se réjouissent de la réouverture de la station au public. En attendant, il y a ceux qui peuvent en profiter, c'est les skieurs.
Franchement, c'est gavé, il fait trop beau, la neige elle est super bonne. On est tombé sur une bonne semaine, en plus il n'y a pas grand monde, donc franchement c'est super plaisant.
Super bien, on a mal aux cuisses. Et là, la reprise avec le beau temps, la neige qui est tombée la semaine dernière, franchement c'est génial.
Le Covid comme épée de Damoclès, mais qui cache aussi un autre bouleversement plus profond, une menace sur la montagne et ses activités, j'ai nommé le dérèglement climatique. Les massifs sont en première ligne et les stations n'échappent pas au débat sur leur adaptation face au réchauffement. Léa Bouvet.
Par exemple, en ce qui concerne l'enneigement, élément indispensable pour la pratique du ski, les canons à neige se multiplient. L'Alpe d'Huez en compte plus de 1000, une pratique qui n'est pas sans conséquences pour Elodia Bonnel, juriste pour France Nature Environnement.
Pour un hectare de couche de neige artificielle, on consomme à peu près 4000 mètres cubes d'eau. À l'échelle des Alpes françaises, on consomme à peu près en moyenne par an entre 15 à 17 millions de mètres cubes d'eau. Ça représente à peu près la consommation en eau d'une ville de la taille de Grenoble.
Mais cette ressource n'est pas illimitée. Le dernier plan local d'urbanisme de la commune alerte sur les risques de manque d'eau d'ici 2050. François Bagdili, directeur de l'Office du tourisme, ne partage pas cette inquiétude.
En montagne, on manque pas d'eau, hein. Il suffit de regarder partout. Ici, il y a des lacs de partout. Je pense que c'est surtout une méconnaissance de la façon dont on produit de la neige. Nous, on parle pas de neige artificielle, on parle de neige de culture. On stocke de l'eau à une époque où personne n'en a besoin. Donc je crois qu'aujourd'hui, la production de neige n'est vraiment pas un problème par rapport à l'environnement. Un certain nombre de stations vont avoir du mal dans les années à venir, mais on est loin d'être persuadé que ce sera le cas de l'Alpe d'Huez.
Un argument plus facile à avancer pour une station installée à près de 2000 mètres d'altitude. Pourtant, ces questions interrogent aussi certains acteurs de la station, comme Roland Roche. Ce moniteur de ski expérimenté a vu la station se transformer.
C'est plus la belle montagne que j'ai connue il y a 40 ans en arrière.
C'est abominable maintenant. Pour alimenter leur canne en neige, ils sont obligés d'aller chercher de l'eau dans une retenue d'eau qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Et ils pensent aller chercher de l'eau dans la vallée maintenant. Il faut arrêter ce développement à tous azimuts comme il fait là. Mais là, ce n'est pas dans l'optique de la station actuellement. J'ai beau me battre pour protéger l'environnement, c'est très très compliqué. Là.
L'évolution du climat pousse les stations à diversifier leur offre. C'est aussi le cas à l'Alpe d'Huez. Alors pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, le ski ne soit plus au centre de l'activité touristique ? Une option qui n'en est pas une pour le directeur de l'Office du tourisme.
Ça fait au moins 20 ans qu'on sait que le ski ne suffit pas. Donc on a une offre d'activité qui est très très large. Mais si on n'a pas le ski, on n'a pas le reste. C'est-à-dire que c'est l'économie du ski qui nous permet de développer des sentiers de randonnée, des activités loisirs. Parce que la montagne, c'est notre fonds de commerce et on n'a pas envie de le brader.
Dans ce débat où les arguments et les intérêts s'opposent, Elodie Abonnel aimerait que les touristes prennent part à la réflexion.
Je doute que les personnes qui pratiquent le ski se rendent bien compte de l'impact que peut générer ce type d'activité sur l'environnement. On ne peut pas raisonner sur une période simplement de 30 ans en disant ben voilà, on peut encore essayer de, au maximum développer cette activité et on verra plus tard. Mais on ne peut pas raisonner de cette manière, c'est une fuite en avant.
Parmi les solutions avancées par celles et ceux qui dénoncent cette fuite en avant, celle de proposer un tourisme de 4 saisons qui répartirait l'afflux touristique plutôt que de le concentrer sur 4 mois de l'année. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette carte postale de l'Alpe d'Huez, peut-être même que cela vous a donné envie. Donc si vous comptez aller skier ce week-end, les conditions sont plutôt bonnes, pas de nouvelles chutes de neige, mais avec un temps ensoleillé, les températures atteindront les 6 degrés et le vent soufflera à 4 km/h.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Il est 16h57, l'émission Microcité touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Clémentine Proutot.
Nouvelle étape dans la vaccination des enfants en France. Le comité d'éthique donne un avis favorable à son élargissement à tous les enfants de 5 à 11 ans. Il conseille également de laisser les parents libres de cette décision. Les réactions fusent après la déclaration de Christiane Taubira qui envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Le candidat écologiste Yannick Jadot juge l'initiative de l'ancienne garde des Sceaux pas totalement à la hauteur des enjeux de la France. Le candidat de gauche Arnaud Montebourg appelle lui à nouveau au rassemblement. L'Ordre des médecins fait appel du jugement infligé au professeur Didier Raoult. Le spécialiste des maladies infectieuses avait reçu un blâme au début du mois pour avoir promu l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. L'Ordre des médecins demande une sanction plus sévère.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Alice, Angelica et Sarah pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Campus. D'ici là, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, Microcité, et à réécouter notre émission en podcast sur le site de Radio Campus. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.